L'expérience commence. À 18 ans, il paraît qu'on devient adulte. Il y a donc une date précise. Tout se passerait du jour au lendemain. Et pour certains, c'est très concret. Ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'ils quittent officiellement ce monde-là. Alors, adulte, on se construit un récit. Cela se crée une histoire alternative, autre, singulière, de ce qu'est une famille. Il y en a souvent eu plusieurs, une enfance et plusieurs maisons. Il et elle réinventent alors ce que sont les liens, et un autre récit se dessine, et d'autres familles sont possibles, et on peut même changer l'histoire. L'autre famille, c'est une expérience de Léa Capuano, réalisée par Annabelle Brouard.
La porte est ouverte.
Pour moi, au début, quand j'étais petite, on ne nous a jamais dit oui, à la fin, il faut partir. Enfin, à 18 ans, il faut partir. Pour moi, je restais là toute ma vie, en fait. Jusqu'à que je parte ou que je prenne vraiment mon indépendance, vraiment toute seule.
Pour moi, 18 ans, c'est pas majeur. 18 ans, c'est juste des chiffres.
Quand j'étais jeune, quand j'avais pas 18 ans, je me disais ça dans ma tête. À mes 18 ans, je me casse et on m'entend plus parler de moi.
Les départements, ils ont une obligation de protection vis-à-vis des mineurs en danger jusqu'à leurs 18 ans. Passé leurs 18 ans, cette obligation disparaît puisque c'est des jeunes adultes et donc c'est plus des enfants en danger.
On m'a pas vraiment enseigné ce que ça voulait dire être adulte. Je peux pas dire si je le suis ou pas, je sais pas ce que ça veut dire. Mais juridiquement, oui, je suis un adulte.
L'autre famille. Histoire des liens tissés par les enfants de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Chapitre 1. La majorité ou la vie en solitude.
Je m'appelle Rose Bertha, mais tout le monde m'appelle Rose. Rose. Et Bertha, en fait, c'est le prénom de ma mère biologique. J'ai 19 ans et je suis en famille d'accueil, ici, depuis que j'ai 7 ans. On est dans ma chambre, du coup. Je partage cette chambre avec Océane, qui est aussi une fille placée en famille d'accueil. Elle est assez grande, elle est spacieuse, j'ai un lit superposé. On a plein de rangements pour nos cours, pour nos bijoux, pour nos soins, les livres... On n'a pas trop de décoration sur le mur puisqu'on n'aime pas trop les posters et tout ça, c'est pas trop notre truc. On a quelques photos quand même dans des cadres.
Faudra que je trouve mon album, je crois qu'il est dans mon lit.
Donc, du coup, alors là dans cet album, là c'est une photo de mon père quand il était jeune. Ensuite, ça, c'était la première fois que j'étais partie me faire coiffer chez une coiffeuse, là, à côté, à Châteaurouge. Parce que, bon, ma tata, elle savait pas trop s'y prendre avec mes cheveux, donc on a préféré aller chez un coiffeur. Parce que j'ai les cheveux crépus et elle savait pas trop s'en occuper. D'habitude, c'est mon père qui venait me coiffer. Là, c'était en Tunisie. Voilà, je suis bien bronzée. J'avais 8 ans. C'était la deuxième fois que j'y allais. Et on était à la plage et tout ça. Enfin, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Ma tata, elle m'a toujours emmenée avec elle. C'est-à-dire que on est parti un mois en vacances. Pendant les un mois, j'allais avec elle en vacances. Parce qu'au début, je voulais pas aller en colonie de vacances. Je préférais être là avec la famille. Et même dans la logique de ma tata, elle s'est dit, je vais la ramener avec nous. Je dis pas maman. Mais je la considère aussi comme une mère, en fait. J'ai jamais dit ce mot, en fait. Ma mère biologique, je l'ai pas vraiment connue. Donc, je suis partie de mon pays d'origine, puisque je suis née en Guyane, à 4 ans. Mon père, il m'a ramenée ici. Et ma tata, elle m'a eue à mes 6 ans. Donc ça fait que pour moi, c'est vraiment, c'est elle qui m'a élevée. Si j'ai un souci, ben ce serait l'une des premières que je vais appeler. Elle a appliqué la même éducation à ses enfants qu'à moi. Et même quand on sort, elle va pas dire oui, c'est une fille que je garde. Elle va dire ouais, c'est ma fille. Ah, le premier souvenir, c'est la première fois que je l'ai vue. J'étais au foyer et on a fait une présentation. Je me rappelle que quand je l'ai vue, je lui ai dit « t'es trop belle ». J'étais en train de jouer dans la salle, elle était en train de parler, je me rappelle même de sa tenue. Elle avait un chapeau, une belle veste, enfin voilà. Et il y avait mon tonton avec elle. C'est un très bon souvenir, enfin, ça fait du bien en fait. Ça... Après je me dis que ouais, c'est passé vite, parce que là maintenant ben, je me prépare à partir de chez elle.
Et pourquoi tu restes pas chez ta tata ?
Je ne peux pas rester chez ma tata, parce qu'ils veulent qu'on ait une certaine autonomie. On va dire qu'on se détache de la famille d'accueil.
T'es majeure ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être majeure ?
Être majeure. Quand j'étais petite, j'ai longtemps pensé, puisque vu que j'avais, on va dire, des limitations, que ce soit au niveau des sorties et tout ça, être majeure, c'est je fais ce que je veux. Tout ce que je veux. Là, c'est bien le cas. Sauf que j'avais pas pensé au côté responsabilité. C'est-à-dire que là, il faut gérer des papiers. Avant, c'était ma dada qui faisait tous mes papiers. C'est là où t'apprends en fait plein de trucs, même avec les études aussi, tu vois, c'est que la vie en fait, elle, c'est pas tout rose.
Donc voilà, c'est chez nous. On a un petit lapin, on a deux chats. On a un petit zoo.
Ah bon, faut pas trop la caresser.
Elle est un peu méchante,
elle. Non, elle est un peu agressive. Charles et moi, on s'est fait... Enfin, pas bouffer, mais on s'est fait mordre par elle parce qu'elle voulait pas qu'on la touche. Faut pas essayer tant qu'elle veut pas. Théa ?
Ouais.
Tu fais quoi ?
Je vais emmener le verre.
D'accord.
Je commence ou tu commences ?
Tu commences.
Gabriel est quelqu'un de passionné. Quand elle fait quelque chose qu'elle aime, ça se sent. Des fois, elle est souriante, des fois, elle fait la gueule, des fois, elle est triste. Mais elle est toujours mignonne. Elle est intelligente, drôle, belle. C'est toujours intéressant de vivre avec elle parce qu'on sait qu'on vivra toujours de nouvelles choses.
C'est mignon, ouais. Mon cœur.
Ouais.
Comment décrire Charles ? Il est sensible, mais il le montre pas. Mignon, désolée de dire ça, mais t'es mignon. En fait, il a des barrières dans son cœur. Et quand il est sans sa protection, on peut lui parler. Et Charles est vraiment, vraiment un petit cœur d'amour que j'aime. On a la musique en commun, les animaux en commun. On a quoi d'autre, Charles ?
Des manières de penser.
En gros, point commun, vous êtes quand même tous les deux sortants de l'aide sociale à l'enfance.
C'est vraiment bénéfique parce qu'on se comprend l'un l'autre et quand on a un problème, au moins, on essaye de le résoudre ensemble, quoi.
Et là, en général, c'est une situation où on se sent plutôt incompris par rapport au reste des gens de notre âge. Et qu'on fait mieux face aux problématiques de la vie ensemble, du coup. Oui, c'est une force.
Au moins, on sait comment...
On est là, quoi.
Bah voilà.
On n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul.
Je m'appelle Charles Lambray, j'ai 18 ans. Je suis dans une licence de management... enfin, d'économie management anglaise. Je suis un ex-enfant de l'ASE, mais j'y étais placé un peu tard, en fait, là où ma situation nécessitait que j'y sois. Allez, à partir de mes 8 ans, on va dire, j'ai été placé à mes 16 ans. Je suis un très court enfant de l'ASE.
Ton prénom, il évoque quoi ?
Alors c'est simple, mon père et ma mère étaient gaullistes. Il y a Charlemagne, Charles Quint, Charles Fou, Charles Chauve. Non, j'aime bien mon prénom. Il est classique. Je fais environ 1m77, je suis brun, j'ai les cheveux courts, je saurais pas dire quel type de visage j'ai, un mix entre ovale et carré. J'ai un style un peu punk avec une chemise à carreaux, collier, bague, jean troué.
Et comment est-ce que tu fais pour étudier? Parce qu'il faut se nourrir, il faut se loger.
Il y a des dispositifs mis en place assez précis. Le contrat jeune majeur, en fait, c'est un prolongement des droits pour un enfant à l'ASE. C'est un prolongement de son placement, de sa majorité, donc à 18 ans jusqu'à ses 21 ans. Le but du contrat jeune majeur, techniquement, c'est d'amener à l'indépendance. On peut avoir un logement fourni par l'ASE, ça peut être des aides financières au logement, etc.
Mais toi, t'en as pas voulu?
Non. Alors, je pouvais y prétendre et j'aurais été éligible. Mais pendant le peu de temps où j'ai été placé à l'ASE, en fait, j'ai senti comme un sentiment de restriction assez constante de la part des équipes qui m'encadraient et des personnes qui étaient responsables de moi. Un peu comme un joug. J'avais l'impression d'être surveillé dans ce que je faisais. Et j'avais pas envie, en fait, qu'on me dise constamment comment vivre, en fait. C'est peut-être un manque de souci avec l'autorité, hein. C'est peut-être moi qui suis immature et qui me borne à vouloir faire ce que je veux. Mais ça me convenait pas. Je vais pas me plier à la volonté et les objectifs de quelqu'un, même si c'est des objectifs rationnels, hein, je suis d'accord, genre bien réussir à la fac, etc. Mais j'ai pas envie, en fait, que ma vie dépende selon si je vis comme ils le veulent. Je milite pour le contrat jeune majeur, c'est un peu incohérent, je milite pour qu'il soit obligatoire et qu'il soit proposé à tous les jeunes. Mais l'ASE, c'est pas une institution dans laquelle je me sens à l'aise. Moi, j'avais le choix, j'ai eu cette chance d'avoir le choix, d'autres ne l'ont pas eu. J'ai le choix parce que même si j'ai une famille assez particulière et que j'en suis un peu éloigné, j'ai quand même des ressources d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai ma bourse, j'ai la pension alimentaire de mon père, j'ai la nationalité française, je suis libre de ce que je peux faire. Donc j'ai le choix, il y en a d'autres qui l'ont un peu moins. Je pense notamment aux ressortissants étrangers qui n'ont pas encore la nationalité ou les exilés. Je pense à ceux qui n'ont totalement pas de famille. Je pense en fait à tous les gens qui sont isolés au sein de l'ASE. Ces gens-là en général n'ont pas le choix. Quand on est enfant de l'ASE, on a tendance à prendre les responsabilités et le sens des responsabilités beaucoup plus tôt. Donc ça ampute une partie de l'enfance. J'ai toujours un peu vécu en liberté. J'ai pas tellement eu de modèle adulte pour m'encadrer. C'est-à-dire que ma mère était très souvent absente, du même pour mon père dû à l'éloignement géographique. Je passais pas beaucoup de temps en famille d'accueil. Je voyais pas souvent mon éducatrice non plus, c'est-à-dire que je la voyais pas tous les jours. Donc j'ai appris par expérience. C'est bête, hein, mais j'ai appris à bien manger à table quand j'avais 15 ans parce que c'est l'époque où j'ai rencontré toute ma famille paternelle et qu'avant je mangeais tout le temps tout seul. C'est bête, mais c'est comme ça, quoi. J'ai appris sur le tas.
Je m'appelle Gabrielle Ferrer, j'ai 18 ans, je vis avec Charles, je fais des études de bac pro accueil et pour moi Gabrielle c'est juste un nom comme les autres parce que ma mère m'avait dit que le nom de Gabrielle c'est Chanel, a une top modèle qui s'appelait Gabrielle et donc du coup ils ont déclaré que je m'appelais Gabrielle parce que j'étais... soi-disant une fille de haute couture, donc du coup j'aime pas dire que ma famille est dans la mode et tout ça parce que dès que tu parles de la mode c'est beaucoup de t'es sophistiquée, mais t'es refaite, des trucs comme ça, et genre moi j'aime pas du tout ça.
Est-ce que tu peux te décrire physiquement?
Physiquement, j'ai les cheveux noirs, j'ai le visage assez ovale, je suis grande, je suis
fais 1m80, je sais pas si ça intéresse. Voilà. Et j'ai un handicap. J'ai eu un AVC quand j'étais petite, donc un an ou deux ans, je sais plus trop. Et donc du coup, je suis arrivée handicapée. J'ai fait un peu de la rééducation et tout ça. Mon père, il était vachement là quand j'ai dû affronter ça. Ma mère, elle n'était pas du tout là. Et en fait, là aujourd'hui, ça m'impacte pas vraiment parce que j'ai su comment me gérer toute seule. Et en fait, je sais à peu près tout faire à part couper la viande, ce qui est assez compliqué, mais si elle est molle ou quoi, je peux le faire.
T'avais quel âge quand t'as été placée ?
J'avais 4 ans.
Est-ce que t'as fait une fête pour tes 18 ans ?
Non. Enfin, j'ai fait une fête, mais pas comme je l'attendais. En fait, à mes 18 ans, ma famille, ma mère, a voulu faire un grand dîner. Mais donc, j'aime pas. En fait, c'est un dîner assez mondain, il faut s'habiller bien. Il y a eu mon parrain que j'avais pas vu depuis 6 ans. Il y avait mon frère que je m'entendais pas très bien avec lui à ce moment-là. C'était pas trop mon mood de voir tant de monde à mes 18 ans pile. Personne ne se parlait, ma mère elle venait de sortir de l'hôpital psychiatrique, donc c'était assez compliqué. On a préféré partir. On a fait une petite fête avec le meilleur pote de Charles. Et donc du coup c'était chill. Mais c'était pas dans mes attentes en fait. Je voulais qu'il y ait vraiment beaucoup de gens que j'apprécie énormément, que je leur dise à quel point je les aime et qu'ils m'ont vraiment aidée pendant tout ce temps. Et en fait, c'était pas du tout ça. En vrai, c'est que les amis sont ma famille, que plutôt ma famille. Enfin, c'est plutôt mes amis qui sont en moi que ma famille, en fait. Quand j'ai passé le collège au lycée, en fait, j'ai demandé une... Je sais, je me mets plein de défis, hein, mais j'ai demandé à être couturière. Je venais de perdre mon grand-père qui a fait de la mode depuis longtemps et en fait, je voulais retrouver un peu mon grand-père dans ce que je faisais. J'ai demandé au collège de bien vouloir me laisser y aller. Et donc, du coup, il y a eu plein de rendez-vous parce que c'était compliqué, nanani, nanana, il n'y avait pas d'ascenseur et tout, mais en fait, je sais marcher, donc il n'y a pas besoin. Donc du coup, je suis arrivée en CAP couture. Et ça s'est vraiment bien passé, sauf que il y a eu un moment où on avait un concours à faire. Et en fait, ils n'ont pas voulu de moi, ni dans le projet, ni autant de modèles. Du coup, j'ai arrêté ce lycée et là, je me suis basée sur mon bac et ensuite, on verra ce que je fais, mais enfin, faut vraiment que j'ai le bac, quoi.
Tu n'as pas de contrat jeune majeur ?
Non. J'ai jamais voulu. J'ai jamais vraiment voulu parce que je me suis dit, c'est encore l'ASE qui va me gérer, c'est encore l'ASE qui va me taper sur le système. Déjà qu'ils m'ont tapé sur ce système, mais fois 10 000. J'ai toujours voulu me partir au plus vite et puis entendre parler de l'ASE, quoi. Si je dois résumer ma vie à l'ASE et ma vie maintenant, genre c'est 1000 fois mieux cette vie que la vie que j'avais avant à l'ASE où tout le monde me bousculait un peu. Du coup, je pleurais énormément dans ma chambre, enfin... Je préfère vraiment cette vie où j'ai totalement la liberté que je veux. Même si je fais doucement, hein, mais je profite de ma vie que j'aurais voulu avoir quand j'étais petite, quoi.
Ça, c'était au parc de la Villette. J'étais avec ma référente, mais de l'ASE, pour passer un après-midi, puisque souvent, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de rendez-vous avec ma référente de l'ASE pour savoir comment ça se passe, si ça se passe bien à la maison, l'école. Et maintenant, là, les rendez-vous, c'est plus par rapport à ma sortie de famille d'accueil en ce moment. Là, c'est que ça, que ça, que ça.
Le contrat jeune majeur, est-ce qu'il peut financer des études longues?
Je vais dire... non. Parce que... Non. Parce que, en fait, j'ai fait un bac ES. Et pour moi, j'allais partir en université. Parce que c'est la suite logique. J'atterris dans un BTS assurance. Je connaissais pas du tout. C'est bien, moi je voulais continuer en licence, mais on m'a dit, ouais, la licence, pas sûr, pas sûr. Parce que, pour eux, vu qu'elle a un diplôme qui lui permet d'aller travailler, ben, qu'elle pense à aller travailler et avoir son autonomie et tout ça. Bon, c'est-à-dire, limite, on me l'imposait. Moi, je voulais pas ça de base. Moi, je voulais poursuivre loin. Hein, je voulais aller en master. Et vu qu'avec ça, ça m'a freiné... dans mes objectifs, je me suis dit, mais c'est une blague. Enfin, je sais pas, depuis petite, on me dit, oui, fais des études longues et tout. Et même moi, enfin, je trouve un truc qui me plaît. Je veux faire des études longues, mais je peux pas.
Grâce à qui t'es devenue grande?
Grâce à ma tata, mes copines aussi. J'apprends beaucoup d'elle et de ma tata. On est très, très fusionnelles. Elle me connaît, je la connais. Hein, elle me comprend, hein, elle est toujours là. Et sinon, avec mes copines, bah, c'est mes meilleures amies, donc c'est tout, elles savent tout, on parle de tout. C'est comme une deuxième famille, on va dire, enfin non, dans mon cas, troisième. J'ai eu de la chance d'être tombée dans une bonne famille d'accueil et qui m'a aidée en fait, tout le long de ma vie et qui m'a aidée à grandir. Ce sera des liens qui seront toujours là, c'est-à-dire que même pour rire, mais c'est sérieux au fond, je dis à ma tata, t'inquiète pas, t'as été sa assistante maternelle et ben, tu vas t'occuper de mes enfants.
Un peu à la recherche de ton histoire?
Alors, je cherche mon histoire, oui. En fait, je cherche mon histoire et l'histoire de mon père. Après, ma mère, franchement, j'ai pas envie de chercher plus. Par contre, à mon père, quand il est décédé, j'aurais aimé de comprendre un peu plus. Enfin, j'aurais aimé écouter plus mon père, même si j'étais petite. J'aurais aimé qu'il soit là pour vraiment m'aider.
Tu dirais que c'est grâce à qui que t'es devenue grande?
Momo, ça a été ma première famille d'accueil que je l'ai rencontrée. Je crois que c'était un soir où j'étais en pyjama et que je faisais ma vie. Et on s'est tout de suite entendu bien et très clash. Donc du coup, j'étais petite, c'était « Oh, elle est clash !» C'est trop bien. Et donc du coup, on est restés très proches. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime, cette personne, parce que elle m'a aidée dans plusieurs situations où c'était vraiment, vraiment merdique. Et elle m'a toujours donné le sourire. Enfin, dès que je la vois et dès que j'ai un coup de mou, genre, je repars avec le grand sourire à mes lèvres. Et genre vraiment, si je fais jusqu'à la soixantaine, j'aimerais vraiment être comme elle. Et papa Christian, on s'est rencontrés à un stage, il y a 3 ans. Il doit avoir la cinquantaine, papa, Christian. Et j'étais hyper sereine quand je lui ai raconté ma vie. Enfin, je lui ai raconté mon histoire à la ZEU et tout. Je sentais quelque chose en lui qui n'y avait pas dans les autres personnes. Je le retrouve un peu, genre, un papa, entre guillemets, dans la façon comment il réagit, comment je l'apprécie énormément.
C'est quoi une famille pour toi ?
Une famille pour moi ? Sans jugement, vraiment sans jugement. Aimer pour ce que tu es et pas pour ce qu'ils pensent. Et faire des activités dehors, voir d'autres mondes, voyager ensemble, enfin, tout ça. Moi, je n'ai pas reçu ça, mais tant mieux pour les autres, quoi. En fait, je veux pas passer pour celle qui est une victime alors que ça s'est passé et ça s'est passé. Enfin, je peux pas revenir en arrière. Je me suis ouvert au monde comme je suis et je préfère rester comme ça plutôt que voir une famille comme j'ai envie de la voir, sauf qu'elle est pas comme ça. Je veux pas faire trop d'efforts pour la famille alors que eux ils savent même pas ce que je suis en fait en réalité.
Qu'est-ce que c'est pour moi une famille? J'ai jamais été attaché à ce terme, mais je dirais qu'une famille ce n'est pas... C'est des gens à qui on tient, qui nous manquent, à qui on pense et qui pensent à nous. C'est des gens envers qui on a une relation saine. Il n'y a pas que les liens du sang qui rentrent en compte pour moi. J'ai une famille biologique, j'y accorde de l'importance, ça fait partie de moi, c'est des gens que j'apprécie et que j'aime. Mais j'ai une autre famille à côté que je me suis créée moi-même, qui sont mes amis proches en fait.
Est-ce que parfois tu te projettes? Est-ce que parfois tu t'imagines comment tu vas raconter ton histoire à tes enfants?
Mais comment je vais leur raconter? Je pense pas que je vais leur raconter quand ils seront petits déjà, parce que c'est assez... Alors ouais, si tu veux savoir les conditions de vie à ton âge, je pense que ça peut être un peu traumatique, je voudrais les épargner un peu de ça. C'est pas forcément un passage très agréable de ma vie, donc je pense que j'ai pas envie de commencer par le négatif si j'ai un enfant, et que je veux d'abord me concentrer sur sa vie et son éducation, et qui justement lui, il a une bonne histoire à raconter, plutôt que de m'apitoyer sur la mienne par rapport à lui. Après, s'il me demande, j'aurai aucun mal à lui raconter, hein, c'est comme avec les autres gens, mais c'est pas quelque chose que je vais lui exposer. C'est pas quelque chose que je vais lui étaler en mode oui tu vois ça j'en suis super fier etc. Quand j'étais petit je jouais au baseball avec mon père, ouais non. Je lui dirais pas ouais moi je faisais ça avec mon père. C'est des choses que je lui dirais pas. Parce que je peux pas.
Je crois que t'as pas encore demandé ton dossier à l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que tu vas le faire?
Je sais pas. Je sais qu'ils sont gardés plutôt longtemps, donc ça peut être intéressant. Après, la démarche est très compliquée et plutôt longue. Je me doute un peu de ce que les éducateurs ont mis dans mon dossier. Peut-être qu'un jour je le ferai, ça peut être intéressant, mais c'est pas un truc qui me fait pas dormir la nuit. Ça va.
Chapitre 2. Père et repère.
Votre attention, s'il vous plaît.
La famille des anciens placés.
Bonsoir tout le monde et bienvenue au pied dans le plat. Donc, on est à la, je ne me rappelle plus de combienième édition. Ça fait beaucoup, hein. Donc, l'association Repère est née il y a maintenant 5 ans. Issu d'un projet qui avait été fait, donc la recherche par les pères, qui a donné naissance à beaucoup de choses, notamment à cette association des anciens et des enfants placés. Aujourd'hui, ça fait déjà, comme j'ai dit, 5 ans que les anciens et les enfants placés se rencontrent pour échanger sur les problématiques qu'on rencontre lors de notre placement ou après notre placement. On met tout dans le plat et ensemble, on essaye d'apporter des réponses Et parfois même juste de raconter ce qui va de bien dans la vie aussi, ça fait du bien. Et on finit souvent avec un partage autour d'une pizza, des gâteaux et des boissons, et on continue les échanges plus individuellement. Donc pour commencer le tour des présentations.
Salut tout le monde, Anne-Solène, membre de Repair depuis 2 ans et demi, je pense. Et à côté de ça, je travaille sur une asso très cool qui s'appelle Parrain par mille.
Moi, je m'appelle Anthony, j'ai 21 vendredi et je travaille dans l'animation.
Moi, c'est Rachel, j'ai 20 ans.
Je m'appelle Barbara Bessori, 18 ans.
Je m'appelle Antoine, j'ai 17 ans.
Bonjour, moi c'est Barry.
Coucou, 20 ans.
Bonsoir à tous, je suis Marie-Ange, j'ai 26 ans. C'est la première fois que je viens ce soir. Ce que je pourrais apporter, je pense que ça va être plutôt des compétences, on va dire, techniques. Par exemple, s'il y a des jeunes qui veulent refaire leur CV, parce que c'est vrai que je recrute pas mal dans mon équipe au travail.
D'autres...
Moi, j'ai besoin d'un coup de main, en fait.
Ah.
Alors, moi, en fait, parce que là, j'ai en train de faire interprète. J'ai traduit les migrants qui arrivent de l'Afghanistan, que ce soit de l'Iran... au Baloutchistan, donc vu que je parle leur langue, du coup j'ai fait le traducteur. Et pour cela, donc j'avais besoin d'une petite carte où il y a écrit, ouais, comme quoi il y a mes coordonnées, tout ça. Donc je suis venu ici, dit pour voir comme, si on peut.
Quoi la langue exacte
que tu parles ? Je parle dari, farsi, pashto et balochi. Balochi, c'est une langue qui est partagée entre l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan, qu'on appelle ça les balochis.
Oui, moi je peux. Après, ce sera pas.
Parfait.
Non, pas. C'est mon travail est bien. mais enfin voilà quoi. C'est. Je peux le faire. Étant donné que je fais de la communication, je peux le faire. D'accord. Donc, faudra juste que tu me donnes exactement les intitulés.
Ok, d'accord.
Et voilà.
Moi, je propose un poste qui enfin, ce sera Marie Montreuil. On recrute beaucoup d'animateurs là-bas parce qu'on est vraiment en pénurie d'animateurs. Et on recrute aussi pour les centres de vacances. Donc on peut bosser avec un CAP petite enfance. Et aussi, si on a le BAFA ou même la première partie, on peut aussi. Moi, par exemple, mon BAFA, je me suis fait financer par une association qui s'appelle Compter sur Demain. Il faut juste faire une bonne lettre de motivation qui va motiver la dame à financer votre projet. Ouais, mais une très bonne, parce que moi, j'en ai fait avec une faute à me l'acheter et j'ai recommencé à me l'acheter aussi. Et voilà, pour faire une très bonne, vraiment bien.
Si vous connaissez des potes qui ont besoin, donc c'est le moment d'envoyer un message.
Comment t'as connu...
Comment t'as connu Repair, voilà.
Moi, j'ai connu Repair parce qu'à l'époque, j'étais en recherche d'alternance pour ma licence pro en com. Et du coup, j'avais, étant donné que je suis placée et qu'à cette époque aussi, j'avais un projet d'ouvrir une asso dans le même type que Repair. Je me suis dit que ça aurait été une bonne idée de faire mon alternance dans une association dans le même thème, entre guillemets. Et après, j'ai commencé à participer au pied dans le plat, etc. Et puis...
T'es resté parce que t'aimes bien.
Ouais, exactement.
Bien.
Pour les pizzas aussi.
Qu'est-ce que t'as compris ? Deux verres.
Allez,
j'avais des verres, on veut continuer à clignoter les chips.
On a tous des chemins très différents et... Il y en a qui ont été placés très tôt, d'autres très tard. Certains en foyer, certains en famille d'accueil, certains ont eu beaucoup de ruptures, d'autres non. Donc chaque parcours est singulier, mais c'est quand même plus facile d'aborder son parcours avec quelqu'un qui a aussi eu cette expérience de protection de l'enfance qu'avec quelqu'un de la population lambda qui a absolument aucune idée de ce qu'est l'aide sociale à l'enfance et qui voit encore la DAS et les orphelinats. Et puis le groupe de pairs, ça crée une dynamique qui est très positive et dans laquelle à la fois on peut se sentir protégé, accompagné quand on a besoin, on peut se sentir moteur et leader de certaines actions quand on a envie de s'investir, on peut être un peu fondu dans la masse si c'est ça dont on a besoin à ce moment-là. La dynamique collective, elle a aussi cet intérêt-là. Et puis ça évite aussi de reproduire l'effet de travailleur social.
Moi, du coup, c'est la dernière intervention. On a reçu en fait un courrier de la mairie de Paris aujourd'hui. C'est un courrier des dons et legs, en fait. C'est un dispositif que vous pouvez solliciter quand vous sortez de l'aide sociale à l'enfance à Paris, en fait. Et du coup, c'est la première fois qu'on a une réponse
de l'ASE de Paris, et qui en plus est positif, puisque c'est 300 euros pendant 3 mois pour Avesur, sachant qu'il en avait vraiment besoin. Donc c'est des super nouvelles, quoi.
Et juste du coup, si on peut enchaîner un peu sur les questions notamment d'entraide, alors... On a Aurélie qui est là ce soir, qui travaille à la LJT. C'est une association de foyers de jeunes travailleurs. S'il y a des galères de logement ce soir, n'hésitez pas.
C'est vrai que dans le cursus normal, c'est parfois difficile en fait d'accéder à la LJT parce que les candidatures, elles se font sur une plateforme. Sur notre association, par exemple, il y a 50 000 candidatures par an pour 11 000 jeunes accueillis. Donc nous, on se dit qu'il faut donner un petit coup de pouce au destin. On voit aussi que des fois, il y a des situations où il y a des critères d'emploi, de ressources ou quoi, qui vont en fait un peu coincer. Des dispositifs aussi qui ont changé et qui sont plus aussi facilitateurs qu'avant. Par exemple, avant, on pouvait avoir une aide pour payer la caution qui était versée directement au bailleur. Donc nous, en FJT, on pouvait faire rentrer des jeunes, même s'ils n'avaient pas d'argent de côté, parce que la caution, elle pouvait être avancée. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça, en fait. L'aide, elle est versée aux jeunes, donc il faut que le jeune, il ait de quoi avancer sa caution. Et c'est pas le cas de tout le monde. Tous les jeunes n'ont pas 450 euros de côté. Donc on construit des passerelles ensemble pour que ces freins-là, en fait, on puisse les gommer et qu'on n'ait pas des jeunes en fait qui se retrouvent sans solution de logement à leur sortie de l'ASE, parce que malheureusement l'ASE ne fait pas forcément derrière le travail d'accompagnement au relogement. Donc nous, ces passerelles-là, on va les construire en tout cas.
Vous allez tous comme ça sur les photos. La photo, c'est de ce côté-là, sur les marches, sur les traditionnelles marches de l'Élysée.
Historiquement, la protection allait jusqu'à 21 ans, jusqu'en 1974, l'année où la majorité a été abaissée de 21 à 18 ans. Et du coup, s'est posée toute la question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes entre 18 et 21 ans qui avant étaient protégés et qui maintenant ne le sont plus. Et le contrat jeune majeur, ça a été un peu une réponse à cette évolution législative. Et donc, c'est des contrats qui peuvent être signés. Alors moi, j'ai des anciennes références, puisqu'à mon époque, c'était quand même très facile d'obtenir des contrats jeunes majeurs et d'obtenir des renouvellements. Moi, j'ai eu 3 ans de contrat jeune majeur, renouvelés tous les ans, mais très facilement. C'est-à-dire que pour ne pas bénéficier d'un renouvellement de contrat jeune majeur, il fallait vraiment avoir un peu déconné. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Les contrats sont souvent beaucoup plus courts. Ça peut être des contrats de 6 mois, des contrats de 3 mois, parfois renouvelables par avenant de 1, 2, 3 mois. Et c'est vrai que ça crée une insécurité chez les jeunes qui est quand même très compliquée dans cette période qui est quand même pas évidente. Et des jeunes qui obtiennent des contrats jeunes majeurs comme ça renouvelés jusqu'à leurs 21 ans, c'est plus la norme comme c'était à l'époque. Le fait que des assos avec beaucoup de jeunes sortants comme repère se développent, je pense que ça veut dire quelque chose de ce qui se passe en protection de l'enfance, de ce manque d'un lien social à la sortie des dispositifs, qui aussi se fait un peu plus tôt qu'avant, des difficultés croissantes que rencontrent les jeunes dans les sorties de dispositifs, et puis peut-être de quelque chose qui manque aussi dans les établissements, dans l'après-placement, des liens qu'on peut garder ou pas. Je pense que l'aide sociale à l'enfance est de plus en plus présente dans le débat public. Je pense que la prise de conscience de l'immense échec et l'immense gâchis que représentent les sorties sèches, qu'elles soient à 18 ou même à 19, voire même à 20 ans, est de plus en plus importante dans la société. J'espère qu'on a réussi à faire passer le message sur l'égalité de traitement qui est absolument nécessaire de mettre en œuvre très très vite dans la protection de l'enfance, et la vraie discrimination que subissent certains enfants. On peut les appeler mineurs isolés étrangers, on peut les appeler mineurs non accompagnés. En fait, c'est juste des gosses qui ont besoin de protection comme tous les autres gosses, et ils devraient être traités exactement pareil. Et c'est pas le cas. Donc j'espère qu'on a réussi à faire passer ce message-là, mais on lâche pas l'affaire. Donc après... Est-ce qu'on a gagné des batailles? Je sais pas, celle d'être ensemble.
m'appelle Boubacar, j'ai 19 ans, j'habite à Paris, je suis en bac pro en électricité. Je suis arrivé le 14 février 2017 à Créteil. Après, on m'avait placé. Du coup, j'étais dans un hôtel. En fait, la vie d'un hôtel, c'est trop compliqué. On fait avec, mais...
Où est-ce que tu vis en ce moment?
Pour l'instant, je vis avec une dame française. Elle s'appelle Jessie. Elle a deux enfants et du coup, je vis avec elle. Elle habite dans une maison. En fait, elle s'est portée secours vu que la situation était ainsi. Et du coup, elle s'est dit que c'était pas normal que ça se finisse comme ça avec la jeune. Moi, je m'attendais pas à 18 ans, on te dit de sortir. Moi, je m'attendais que d'avoir des bons accompagnements. C'est-à-dire, si jeune, il veut faire des études, il continue ses études. S'il veut faire des études d'avocat, tout ça vraiment de lui, montrer la bonne voie et qu'il ne soit pas à 18 ans. Il veut faire un truc, mais il n'arrive pas à le faire. S'il n'arrive pas à réaliser ses rêves ou ce qu'il veut, il va commencer à lâcher ses bras. À partir de 18 ans que la personne doit au moins avoir un peu de capacité ou un peu d'aide ou un peu de soutien pour y arriver. C'est à partir de cet âge-là que ça commence l'aventure, ça commence vraiment la maturité.
Là, on va aller, on va chercher Anne Solène.
Ça fait longtemps plus qu'on ne s'est pas vu. Ça me ferait plaisir, ouais. C'est bien de la rencontrer.
Tu penses que les adultes, c'est des alliés ou c'est des ennemis?
Non. Non, les adultes, c'est en gros, c'est des quotidiens. Ils sont là à t'aider. Ils sont là à te soutenir. Comme en gros, Anne Solène, c'est une adulte, celle qui me soutient, tout ça là. Pour moi, c'est pas des ennemis.
On s'est rencontrés la première fois dans un café. Aboubacar, il était scolarisé en lycée pro. Il rencontrait des grosses difficultés d'hébergement puisque, après avoir été pris en charge un petit peu par l'aide sociale à l'enfance, sa minorité était remise en cause. Et donc, il avait été remis à la rue. Et donc, il essayait de se débrouiller pour continuer à suivre sa scolarité sérieusement. Mais il passait de canapé en canapé, en association, avec des périodes un peu de rue. Et c'est un de ses professeurs qui s'est mobilisé et qui a contacté une professeure d'un autre lycée. Et il se trouve que cette professeure-là connaissait Repère 94. Tout ce petit monde-là s'est réuni dans un café un soir pour rencontrer Aboubacar, essayer de voir ce que l'association pouvait faire pour l'aider. Et moi, ça faisait peut-être quelques mois que j'étais bénévole sur Repère 94, Repère 75. Et j'ai rencontré Aboubacar. Sa situation m'a beaucoup touchée. Et de voir cet enfant, parce que c'était un enfant et qui s'accrochait à sa scolarité malgré tout ce parcours difficile, toute cette difficulté qu'il pouvait rencontrer, ça m'a vraiment touchée. Et je me voyais pas juste repartir chez moi et lui dire on se revoit dans quelques jours. C'est l'histoire de notre rencontre.
Pour moi, je savais pas ce jour-là, ça. Je vais rencontrer une personne comme elle. Elle est plus qu'un éducateur, même en famille, elle est comme un proche à moi.
C'est quoi pour toi un foyer?
Pour moi, un foyer, c'est vivre ensemble, partager ensemble et avoir des liens, parental ou soit amitié, ça dépend. En gros, c'est s'accepter.
Moi, c'est Anthony, j'ai 21 et je suis animateur sur la mairie de Montreuil. Moi, tu vois, j'ai fait 21 familles de 0 à 3 ans, quoi. Et je sais pas comment ils ont fait pour s'en apercevoir qu'à partir de mes 3 ans, ça les a saoulés. C'est un sérieux boulot à faire sur ça, mais après, c'est des éducateurs, ils sont chargés, ils ont plein de gosses à s'occuper, je comprends, mais c'est juste le fait d'être plus actif au niveau à agir et à l'écoute aussi pour les jeunes.
Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec les jeunes?
Moi, ça me rappelle mon enfance. Moi, je pars un but. Si l'enfant, il vient avec, il pleure parce qu'il n'était pas content de venir, je pars du principe qu'il faut qu'il reparte avec le sourire à chaque fois, quoi. Si on n'a pas le sourire le soir, c'est un échec, mais c'est pas grave. On va lui demander pourquoi c'est un échec, quoi. Et retravailler l'échec pour que le lendemain, bah, qu'ils viennent avec le sourire, qu'ils repartent avec le même.
Et toi, tu dirais qu'aujourd'hui, t'es grand ou t'es petit?
Moi, à travailler avec les petits, on se sent petit en plus avec. On essaye de. Faut se mettre à la place du petit, quoi. Parce que si tu travailles avec des enfants, tu essayes de jouer l'enfant, même si t'es adulte. Alors c'est un peu une pièce de théâtre, mais voilà, c'est le but, quoi.
Mais ton histoire, elle t'a pas appris des trucs sur l'enfance?
On travaille beaucoup. L'autre fois, j'ai une petite anecdote sur ça, c'était un peu mignon, mais moi, j'aimais pas qu'on parle de mes parents, en fait, que ce soit en bien ou en mal, parce que ça me retravaillait tout le cerveau. Et un enfant, une fois, un jour, il est venu me voir, et je rigolais avec lui, et j'ai fait « Ah, tu m'embêtes pas, sinon je vais aller voir mes parents. »« Ah, mais tes parents, ils sont morts. » Là, je savais plus quoi répondre, mais j'essayais de faire genre le sourd, voilà, pour pas que je me mette dans un état aussi... En mode, parce que j'avais quand même l'alarme, je dis à son âge qu'il connaît ça, quoi. C'est jeune, quoi, ils savent pas ce qu'il dit, je comprends, mais... Déjà, moi, je voulais pas parler de mes parents, je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase, tu vois. Je voulais dire cette phrase pour rigoler, mais... Voilà, dans l'autre contexte qu'elle a terminé.
Est-ce que enfant de l'ASE, c'est pour toujours?
Quelque part, oui, je pense. Parce que... Tout le monde se souvient de son enfance. On l'est toujours un peu au fond, parce que on se construit par rapport à notre environnement. Et l'ASE, c'est un environnement totalement à part de ce que peuvent connaître d'autres jeunes. On reste l'enfant de ses parents, on reste l'enfant de l'ASE.
Non, parce que on est peut-être sous les dispositifs de l'ASE pendant une longue partie de notre vie, mais au moment où on va dire le contrat s'arrête. On parle plus de l'ASE. On passe à autre chose et on fait notre vie, en fait.
Oui, pour moi, oui. On a tellement vécu. Et ça s'oubliera jamais. Hein.
Chapitre 3. Changer l'histoire.
Donc, je suis Colette Duquesne. Je suis présidente d'une association... Défense de l'enfant international, c'est l'association historique de la Convention internationale des droits de l'enfant. Moi, j'étais placée dans le Morvan, qui était la grande région d'accueil, on l'appelait la laitière de la France, la grande région d'accueil des enfants parisiens, particulièrement dans mon village. Sur 54 enfants de l'école, on était 41 enfants placés. Et alors, on a travaillé il y a 2 ans, pour faire changer la définition du travail social. Et la nouvelle définition, c'est favoriser donc l'accès de la personne à l'ensemble de ses droits fondamentaux. C'est magnifique comme définition, et il faudrait que ce soit un socle qui permette donc de faire entrer cette question des droits de l'homme, des droits de l'enfant dans le travail social.
Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire tes études générales. C'est dans quelle loi française où c'est écrit une personne qui n'a pas de papier, n'a pas droit à continuer ses études générales. Beaucoup de jeunes se retrouvent maintenant à faire des trucs qu'ils ne voulaient pas faire. qu'on leur impose de faire. Ils sont obligés parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des droits. Ils ne savent pas qu'ils ont le droit à l'éducation. S'ils savaient qu'il existait le défenseur, je pense bien qu'il y aura des solutions.
Ça fait 5 ans que j'ai pas vu mon papa. Et moi, dans mes souvenirs, donc j'avais 8 ans, dans mes souvenirs, je voyais mon papa immense et très, très costaud. Et c'est ça qui me faisait peur. Puis je l'ai revu cette année. Et ben, il n'est pas du tout grand et pas du tout immense, il ne m'a pas du tout fait peur. Je me suis dit, donc l'enfant, il se représente la personne qui lui fait peur ou quelque chose qui lui fait peur d'immense, de grand, qui n'arrivera peut-être pas à surmonter. Alors que quand on est aidé et qu'on est accompagné tout le temps, ben, ça devient de plus en plus petit. Et après, ben, on se dit, ah, mais c'était pas comme ça. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des enfants ne savent pas qu'ils ont le droit de demander un avocat et qu'ils ont même l'obligation d'en avoir un. Moi, j'ai un avocat depuis mes 2 ans qui m'aide à exprimer ce que je ne peux pas par peur de blesser ou même par peur de mal le dire et de mal me faire comprendre. Lui, son métier, bah, c'est de m'aider à exprimer ce que je ressens à travers ses mots à lui qui sont peut-être plus adaptés que les miens. Donc, c'est important.
On se fait un petit échauffement quand même, ok? Allez hop, on se fait un petit échauffement. Oh. Allez, allez. On va faire un truc sur les prénoms. Et je veux bien entendre vos voix, bien entendre les sons des voix, d'accord? Vas-y, Megan.
Logan.
On se regarde dans les yeux.
Yolaine.
Aujourd'hui, vous avez des éducateurs qui sont formateurs. D'autres éducateurs qui vont être des professionnels, ils n'ont pas une demi-journée sur les droits de l'enfant pendant les 3 ans de formation. Ils ne savent même pas qu'une convention internationale, c'est le cadre juridique contraignant des politiques de l'enfance qu'ils sont en train d'enseigner. Ils ne savent pas qu'il y a un contrôle donc par l'ONU sur ces politiques de l'enfance. Donc ils vivent dans un univers où finalement ils ne voient qu'un tout petit morceau, ils n'ont pas la vision globale. Et cette vision globale, c'est ça qui donne aussi une force.
On passe au texte ? Hein ? Par rapport à ce qu'on avait fait en avril dernier à Morvan, ce que j'expliquais à Logan, c'est qu'on va essayer qu'il prenne encore plus en charge son texte seul et qu'il n'y ait que quelques voix de temps en temps. On teste, d'accord ? Vas-y, à toi, Logan.
Un jour, je me suis sauvé de mon père. Je dis bien sauvé de mon père comme on dit sauvé de la noyade ou d'une grande maladie. C'est arrivé un matin, les mots de mon père avaient hurlé toute la nuit dans ma tête.
Je ne t'aime pas, tu ne sers à rien, tu n'es rien. Je ne t'ai pas voulu. Barre-toi.
Des mots qui m'avaient balancé en pleine figure pendant des heures, la veille au soir, en me forçant à rester là, à côté de lui, et à l'écouter sans broncher. Ne plus rester là, ne plus subir. Fuir, vite s'en aller. Ce n'était pas la première fois que j'y pensais. J'y pensais même à longueur de journée depuis des mois. Mais je renonçais à chaque fois. Je ne voulais pas laisser mon frère seul avec notre père. Ma grande sœur, il l'avait déjà chassé. Je souffrais de son absence, elle qui avait tant donné. Elle qui avait toujours été à nos côtés, recollant les morceaux à chaque placement qui nous séparait. Elle était notre étoile, notre rayon de lumière dans tous les jours les plus sombres. À part l'éducateur qui venait de temps en temps.
Je fais un découpage un petit peu différent. À part l'éducateur, qui veut faire l'éducateur ?
Moi.
Mégane. D'accord. Parce que t'as fait le père, ça serait bien d'entendre une autre voix. Yasmine.
Ses enfants, quand ils vont à l'Assemblée nationale, quand ils vont rencontrer Macron, quand ils sont sur scène à l'UNESCO, quand ils font, ça c'était vraiment la chose inédite qu'on a fait, c'est de les mettre sur scène avec leur récit de placement devant le grand public. Et ça, c'était vraiment un grand étonnement, mais un grand plaisir de pouvoir partager avec autant de gens. Et, mais les mots sont forts et le texte est très fort et le public le sent.
Mon père agissait en traître. Il était doué pour la comédie du père qui peine tant à élever ses enfants, mais qui fait du mieux qu'il peut. L'éducateur, il l'endormait en parlant à l'infini de lui.
La protection de l'enfance, je pense qu'elle devrait accepter d'avoir beaucoup plus une dimension politique, sociale. Je dis politique, c'est-à-dire sociale. C'est-à-dire on n'est pas que dans l'individu et dans son environnement familial. Et ce qui nous anime, c'est que les droits sont interdépendants. Ils sont tous à égalité et que le droit pour un enfant d'avoir un toit, c'est aussi important que le droit d'avoir de l'affection, de l'attention de ses parents.
Aujourd'hui, je suis debout devant vous. Je n'ai plus peur de vous regarder. Je n'ai plus peur de vous parler. Aujourd'hui, j'ai tant à voir et à vivre. J'invente mon bonheur à partir de tout ce qui passe à ma portée. Un rayon de soleil, une musique, faire entendre les voix des enfants placés.
Quand tu racontes ton histoire, t'as quelque chose qui se libère en toi, ça te fait que tu te sens mieux quand tu racontes ce qui t'est arrivé.
Ça sert entre guillemets à faire comprendre aux personnes qui la lisent que je leur souhaite entre guillemets qu'ils vivent pas la même chose et que eux réussissent aussi à faire en sorte d'arranger les choses.
J'oserais pas dire qu'on est vraiment des modèles, mais c'est en fait quand on parle, quand on explique ce qui s'est passé, quand on explique vraiment dans les détails, ça leur incite à parler de leur histoire et à dire bah on les écoute quoi, on a le droit à la parole.
Ça sert à dénoncer parce que certes ça va, mais il y a plein de choses qui vont pas. Moi il y a plein de choses qui se sont passées quand j'étais petite. Bah, j'étais petite donc je m'en rendais pas compte. Maintenant que j'ai grandi, je me dis mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Enfin, c'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal qu'on m'ait pas écouté. Quand je dis que je ne veux pas voir une certaine personne, je ne veux pas la voir. Après, peut-être qu'ils ont des obligations de renouer des liens avec de la famille. Mais quand on voit que l'enfant, il se sent pas à l'aise avec un adulte, qu'on l'amène dehors avec lui pendant des heures alors que c'est un inconnu à mes yeux, aujourd'hui, mais je me demande pourquoi ils ont fait ça. Je dis que je ne veux pas, pourquoi vous m'amenez? Je suis une enfant, donc pour eux, peut-être la parole... Bon, c'est qu'une enfant, ça passera plus tard. Bah, aujourd'hui, je me demande pourquoi ils ont fait ça. Donc ça sert à dénoncer, parce qu'ils n'avaient pas à faire ça. Quand je dis non, c'est non. Déjà quand j'étais petite, et aujourd'hui encore plus.
L'autre famille, un documentaire de Léa Capuano, réalisé par Annabelle Brouard. Avec Aboubacar, Alassane, Anne-Solène, Anthony, Charles, Colette, Gabriel, Logan, Mégane, Rachel, Rose et Yasmine. Prise de son, Raymond Alboui et Christophe Papon. Mixage, Claude Nior. Coordination, Aurélie Charon et Inès Dupéron. Merci à l'association Repères, à Défense des Enfants France et à la Défenseur des Droits, Geneviève Avenard.
Dimanche prochain dans l'expérience, Christophe Fourvel part au pays de Trelles, chez son ami l'écrivain Mathieu Messager. C'est un territoire que vous ne trouverez sur aucune carte et d'où part sa poésie. En attendant, il sera bientôt 23h et vous retrouvez Mathias Sénard, la salle des machines.